Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CFM Radio. C'est Jacques pour une balade sonore que je vous propose une fois par mois sur nos ondes dans un musée du Tarn. Alors le mois dernier, nous étions déjà ici à Gaillac, au musée Philadelphe Thomas, plongé dans l'histoire naturelle et l'esprit de collectionneur de Philadelphe Thomas. Aujourd'hui, eh bien, je vous ramène dans cette cité du vignoble pour aujourd'hui un changement d'atmosphère, direction le musée des Beaux-Arts qui est installé dans l'élégant château de Foucault et son parc au charme très, très Louis XIV. Un musée labellisé Musée de France, riche de centaines de peintures, de dessins, de sculptures aussi, et qui propose un parcours depuis le néoclassicisme jusqu'à la modernité de l'après-guerre, sans oublier une actualité artistique dense. Pour nous guider aujourd'hui, on retrouve une voix que l'on connaît déjà sur CFM Radio, celle d'Adèle Macias, qui est la directrice des musées de Gaillac. Bonjour Adèle.
Rebonjour Jacques.
Alors, merci de nous accueillir à nouveau dans ce musée Château de Foucault, ouvert au public. On va les entendre passer là derrière nous en train de visiter ce musée. Déjà, je voudrais qu'on parle du lieu, de ce château de Foucault et de ce parc de Foucault.
Alors effectivement, on a la chance d'être un musée et aussi un monument historique, puisque le château de Foucault est classé en monument historique, donc ces fameux bâtiments qui ont une importance artistique et historique majeure en France. Il est classé depuis 1945 et le musée, lui, est situé au château depuis 1934. En fait, c'est un château, vous l'avez rappelé, d'époque à peu près Louis XIV. On est sur une construction au milieu du XVIIe siècle, dans les années 1640, a priori, par la famille de Foucault, qui est une famille riche, qui est une famille qui est parlementaire à Toulouse, et donc ils ont une sorte de résidence secondaire qu'ils font construire à Gaillac. À l'époque, on est un peu en sortie de la ville, on est, un peu tout à fait sur la périphérie, et ils vont développer cette sorte de villa un peu de campagne, sur un modèle qui est assez français, mais sur un modèle qui est aussi italien, en particulier pour les jardins, et je pense aux jardins qui sont derrière nous, vers le Tarn. Donc voilà, cette maison très particulière, ce château, qui ensuite passe de famille en famille jusqu'au début du XXe siècle, où il est acheté par la municipalité, et donc il devient musée en 1934.
Donc on y vient autant pour les œuvres que l'on peut voir accrochées ici sur les murs, mais aussi pour apprécier cette bâtisse d'époque, apprécier aussi la vue sur le Tarn. On parle de ce musée des Beaux-Arts qui est l'un des musées particuliers gérés par la ville. Le musée Philadelphe Thomas, c'est plutôt autour de l'histoire naturelle, et ici on est dans les Beaux-Arts.
Tout à fait, on est dans les beaux-arts, donc ces arts, on va dire, un peu académiques, donc la peinture, la sculpture, aussi les objets décoratifs, on en a moins, mais on en a quand même, donc que ce soit des céramiques ou du mobilier. Et vous l'avez dit, nous on se concentre vraiment sur cette période du 19e siècle et du 20e siècle, avec une particularité qui est la consonance vraiment locale de nos artistes. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas forcément les grands noms de l'histoire de l'art. Par contre, on a les déclinaisons locales, territoriales, d'artistes soit qui sont du territoire gaillacois ou du Tarn, soit qui ont été inspirés par ces lieux.
Alors comment les parcours ont été décidés pour ce musée des Beaux-Arts? Parce qu'on est sur plusieurs niveaux, différentes pièces. Est-ce que tu peux nous proposer une balade audiophonique dans ce musée des Beaux-Arts?
Oui, alors c'est un grand défi de réussir à emmener nos auditeurs avec nous dans ce musée. En fait, déjà, le parcours, il a été renouvelé en 2021, donc il est assez récent, en tout cas beaucoup plus récent que le musée. Il a été conçu par mon prédécesseur, M. Bertrand de Vivier, qui l'a imaginé en fait dans une vision justement de l'histoire de l'art, assez chronologique finalement, pour présenter voilà, les différents courants et rattacher nos artistes locaux à une histoire de l'art un peu plus vaste, finalement. Donc on commence avec des artistes soit impressionnistes, soit qui vont retenir la leçon impressionniste et l'attention à la lumière en partie dans leurs œuvres. Et ensuite, on revient vers notamment les évolutions de l'impressionnisme, le symbolisme, ce qu'on appelle aussi le post-impressionnisme ou pointillisme, qu'on connaît souvent un peu plus. Et puis on a des salles un peu plus thématiques, avec notamment une salle de sculpture qui est dédiée à l'artiste Jean-Jules Pardariès, Et on a une salle qui est davantage liée à l'histoire de Gaillac et aux arts graphiques. Puis ensuite, on reprend le parcours chronologique au deuxième étage, de manière assez linéaire cette fois-ci, donc avec de l'orientalisme, du fauvisme, des expressionnistes, donc des artistes qui vont être beaucoup plus sur la couleur, sur une certaine vivacité aussi, et sur un éloignement de la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peint plus forcément les choses telles qu'on les voit, mais beaucoup plus telles qu'on les ressent. Donc ça, c'est une des grandes tendances du XXe siècle, et on le voit vraiment à travers nos artistes dans le Tarn.
Toutes les œuvres sont exposées là, ou il y a certaines qui sont en stock ?
Et non, comme beaucoup, beaucoup de musées, évidemment, on a une grande partie des œuvres qui sont en réserve. Vous avez parlé de plusieurs centaines d'œuvres, alors on n'a pas plusieurs centaines d'œuvres exposées aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'on a un stock, entre guillemets, important dans les réserves, qui peuvent être des œuvres assez différentes, finalement. Il y a des œuvres qu'on n'expose pas pour des questions de fragilité, de conservation. Je pense notamment à tout ce qui est art graphique, dessin, aquarelle, etc. L'aquarelle n'est pas un art graphique, mais c'est sur papier, donc c'est aussi très fragile. Et puis, on a des œuvres qui sont généralement peut-être un peu moins intéressantes, ou bien qui sont des croquis pour des œuvres qu'on a par ailleurs. Et puis, malheureusement, quelques œuvres qui ont traversé les siècles dans un état plus ou moins parfait, donc qui ne sont pas exposables aujourd'hui, mais qu'on conserve, évidemment, parce que c'est la mission du musée et parce qu'on espère pouvoir un jour leur redonner tout leur lustre.
Elles viennent d'où, ces œuvres ?
Alors, ça dépend vraiment beaucoup. On a des œuvres qui sont celles du peintre Firmin Salabert, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui a presque une salle à lui tout seul. Cet artiste-là, il a une histoire particulière, parce qu'en fait, on retrouve notre fameux Philadelphe Thomas du muséum. C'est un artiste, Firmin Salabert, qui était ami avec Philadelphe Thomas, et c'est le premier à avoir donné des œuvres à la municipalité de Gaillac, à la ville. Sauf qu'à l'époque, la ville de Gaillac, à la fin du 19e, n'a pas de musée. Donc c'est Philadelphe Thomas qui les expose d'abord dans son musée. Mais ensuite, on se dit, bon, quand même, ces œuvres appartiennent à la ville, il faut en faire quelque chose. Et au final, plusieurs artistes comme ça vont avoir l'idée de donner leurs œuvres, leur fonds d'atelier, ce qui va provoquer donc la création du musée des Beaux-Arts en 1934. Et à partir de là, on a à la fois des artistes ou des familles d'artistes qui sont des ayants droit lorsque l'artiste est décédé, qui nous contactent pour donner des œuvres, pour apporter leur pierre à l'édifice du musée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de particuliers qui se retrouvent avec des œuvres d'artistes locaux chez eux et qui nous signalent comme ça ces propositions d'acquisition.
Adèle Macias, la question la plus difficile maintenant pour toute directrice de musée, pour des programmateurs aussi, quels sont selon vous les incontournables de ce musée, que ce soit en peinture, en sculpture, et j'en passe?
C'est effectivement une question très très difficile, je ne vous remercie pas. Alors évidemment c'est très subjectif et ça me permet de parler d'autre chose, c'est que pour l'instant je vous ai beaucoup parlé d'histoire de l'art et vous allez peut-être vous dire en tant qu'auditeur qu'on a un parcours qui est très savant. C'est vrai, mais c'est simplement une des clés de lecture qu'on propose, c'est-à-dire que moi je pense vraiment qu'il y a une part aussi d'émotion et de subjectivité. On ne réagit pas tous aux mêmes œuvres, on ne réagit pas tous de la même manière face à l'art. Il y a des choses qui, moi, vont beaucoup me plaire, qui ne vous plairont peut-être pas. Et c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Donc, à titre personnel, j'aurais tendance à vous dire que moi, un des artistes qui me parle le plus dans la collection, c'est Gaston Durel, que je trouve absolument passionnant parce qu'il a réalisé, donc on est dans les années 1930-1940, il a réalisé de très belles vues de Gaillac, très colorées, pleines de lumière, pleines de charme, très pittoresques. Et en même temps, c'est un artiste qui a toute une carrière en tant que peintre orientaliste. En 1940, c'est déjà un petit peu tard. Et il réalise beaucoup de toiles, notamment liées au Maroc, et qui sont des toiles qui sont réalisées dans un contexte colonial, donc ça dit aussi beaucoup de choses. Et je trouve que quand on regarde la manière dont il peint ses toiles, c'est très particulier parce qu'on a vraiment l'Orient façon un peu mille et une nuits, façon imaginaire un peu fantasmé, c'est-à-dire qu'on va avoir les chameaux, on va avoir les djellabas, on va avoir le souk. On est en 1940, le Maroc de 1940, c'est évidemment beaucoup plus que ça. C'est un lien à la France qui est très particulier. Et donc notre artiste s'inscrit dans cette idée, dans cet imaginaire-là, Donc voilà, il y a tout un contexte qui, je trouve, donne une saveur très particulière à ses œuvres. Et puis voilà, on a d'autres artistes qui sont aussi méconnus. Je pense à Marie Bermond, même chose, une histoire incroyable. Une femme qui est la fille d'un maire d'Albi au début du XXe siècle, qui au début a une carrière très académique, assez discrète, parce que c'est une femme, justement. Mais voilà, elle a un style très académique, très léché, très glacé. Et puis elle va faire une sorte de révélation mystique. Elle va se prendre de passion pour un courant philosophico-religieux qui vient d'Inde. Et en fait, à partir de là, elle ne va pas créer pendant 25 ans. Et ensuite, elle change totalement de style et elle commence à faire des figures beaucoup plus travaillées, beaucoup plus schématisées, parfois presque grimaçantes. Donc, on voit une évolution totale à travers son art. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont des artistes qu'on ne connaît plus forcément. Mais vraiment, je vous invite à venir les découvrir parce qu'il y a des tranches de vie et il y a des choses extrêmement intéressantes dans leur manière de représenter leur sujet.
Et parmi les sujets, dès l'une, pratiquement dès l'entrée, moi j'ai été frappé par des portraits de la famille Rothschild, qui a là, Ingres aussi, que j'ai cru voir. Donc on voit que peut-être ces artistes, ils sont plus connus aujourd'hui, mais ils devaient avoir pignon sur rue à l'époque, parce que les Rothschild ne demandaient pas à n'importe qui de faire leur portrait.
Tout à fait, c'est un très bon exemple. On a effectivement des portraits de la famille de Rothschild, d'Adèle de Rothschild notamment, qui a été une grande mécène à son époque. Là, en l'occurrence, c'est un pastel de Charles Escaut, qui est un artiste gaillacois. Et justement, dans le testament d'Adèle de Rothschild, on sait qu'il y a très peu d'artistes à qui elle lègue de l'argent, et Charles Escaut en fait partie. Donc aujourd'hui, même chose, c'est un nom qu'on ne connaît plus du tout. Même en tant qu'historienne d'art, je peux vous dire que voilà, Charles Escaut, on l'a très peu sur les tablettes. Et pourtant, effectivement, à son époque, il est très bien inséré dans le milieu du marché de l'art et avec des mécènes aussi importants que les Rothschild. Pour Ingres, c'est un peu plus compliqué, on va dire, puisque ce n'est pas un portrait qui est signé par Ingres, c'est un portrait d'Ingres. Et en fait, c'est un portrait supposé d'Ingres, dont on sait aujourd'hui que ce n'est pas un portrait d'Ingres. Voilà. Mais il est intéressant quand même parce qu'il est peint par un élève d'Ingres, Firmin Salabert, le fameux, celui qui était ami avec Philadelphe Thomas. Et Firmin Salabert, aujourd'hui, on ne le connaît plus. Le musée Ingres-Bourdelle, je pense, ne présente pas de tableau de cet artiste. Et pourtant, on nous dit à l'époque, dans des sources écrites, qu'il est l'un des élèves préférés de Jean-Dominique Ingres.
Et ce musée des Beaux-Arts de Gaillac ne nous rattache pas seulement aux artistes de l'histoire tarnaise des artistes passés. Nous sommes aussi les pieds dans le présent avec ce musée, comme on va le voir en suivant avec vous, Adèle Macias.
מנשימה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די. ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה. נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש גלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ירחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק. מה עוד אעשה כדי לעלות? הדרך שלי לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר להנחות? או כך ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה, מתישה וקסומה. ולאן אינני מקבלת אותה? אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט. אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה, מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט. הבריחה מאהבה עצמית גורלית, כל שאבקש לקבל יתפזר באוויר. המביא לא מביא לנשמה. זה so far. You see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky, the rainbow makes you feel high. High, so far. You see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. משמיעה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די. ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה המתנה מותנית באהבה. נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים.
CFM Cord, CFM, l'esprit rock.
Vous êtes sur CFM Radio et nous sommes toujours en direct du Musée des Beaux-Arts de Gaillac, ici dans le parc de Foucault, en compagnie d'Adèle Macias, qui est la directrice des musées de cette ville. Alors, dans cette deuxième partie d'entretien, Adèle, nous allons parler des expositions temporaires et des actions aussi que vous menez ici au Musée des Beaux-Arts. On parle d'actions de médiation, déjà parlons de l'exposition temporaire du moment. Là, c'est Nature Fabuleuse, où vous avez proposé une carte blanche à l'artiste Violaine Lavaux. Il n'y a plus que quelques jours hein, pour voir cette exposition, c'est jusqu'au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour présenter cet artiste-là, Violaine Lavaux ?
Alors, Violaine Lavaux, c'est une artiste du territoire au sens régional, puisqu'elle est basée sur Carcassonne. Elle a déjà beaucoup travaillé dans le Tarn, mine de rien. Elle a travaillé au Château-Musée du Cayla, pas très loin, à l'abbaye école de Sorèze aussi, dans le sud Tarn. Donc, c'est une artiste qui connaît bien notre département. Et l'idée, c'était de lui confier effectivement une carte blanche, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le thème de la nature, avec un rapport très direct, notamment aux matériaux naturels qu'elle travaille en atelier. Donc elle va récolter par exemple des plantes, qu'ensuite elle transforme en les plongeant dans de la céramique ou en les moulant avec de l'argile. Donc voilà, il y a un rapport direct aux matériaux organiques qui nous intéressait beaucoup, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était travailler sur le thème de la nature, en partant du fait qu'on a la chance, comme vous le savez maintenant, d'avoir un musée des Beaux-Arts et un musée d'histoire naturelle, et qu'il y avait vraiment des ponts qui nous semblaient très intéressants à mettre en valeur. Donc voilà, on voulait organiser un dialogue entre art et science, et le fil rouge que représente Violaine Lavaux par sa création donnait du sens. Donc effectivement, elle a pioché dans les deux collections, elle a rajouté ses créations, et ça donne naissance à un univers qui est assez poétique, assez onirique.
Autour de cette exposition, vous avez aussi déployé tout ce que vous aimez proposer au public, quels que soient les âges. On parle de visites commentées, d'ateliers de pratiques artistiques. Ça me permet de vous demander qu'est-ce qu'on peut vivre ici en tant que visiteur quand on vient au Musée des Beaux-Arts, quel que soit son âge.
Alors nous, on essaye de faire en sorte que l'offre soit la plus diversifiée possible. Donc on va retrouver évidemment les incontournables pour tout musée, donc les visites guidées, en particulier les visites d'exposition, les visites un peu plus focus sur une thématique. Je pense par exemple aux propositions qu'on peut faire souvent autour du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, où souvent on essaye de mettre en avant nos artistes femmes qui sont nombreuses, qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais qui sont nombreuses. On a bien sûr les grands événements comme la Nuit des musées. On a des ateliers de pratique, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes. Ça, j'insiste, parce qu'on nous demande souvent, en tant qu'adulte, voilà, si vous avez une pratique, que ce soit débutant ou plus confirmé, vous pouvez tout à fait venir. On a des ateliers, généralement, une fois par mois, le dernier dimanche du mois.
Quel genre d'atelier ?
C'est très
de peinture,
variable. C'est peinture, c'est croquis beaucoup, mais on a eu un atelier sur le pastel plus récemment. Donc ça dépend un peu des techniques, mais en tout cas c'est vraiment voilà, ouvert quel que soit le niveau. Et puis ensuite, on développe effectivement des choses un petit peu plus originales, en tout cas on essaye, notamment à destination des familles et des plus jeunes. Donc là, notamment sur la programmation qui arrive donc février-juin 2026, puisqu'on pense déjà à la suite, bien sûr, on va avoir des propositions, notamment avec la médiathèque, autour des plus jeunes pour découvrir le musée, avec des livres jeunesse, avec un accompagnement ciblé, voilà, précisément pour les enfants. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de franchir la porte du musée, quel que soit l'âge.
Parlons aussi, il me semble que le 21 décembre, il y a un truc ici, non ? C'est moi qui ai zappé là.
Non, il y a un truc ici.
Si le musée mettait compté.
Exactement. Ouais. Alors là, c'est lecture de compte. Ça annonce déjà un petit peu hein, les lectures qu'on fera avec la médiathèque au printemps. Mais effectivement, on a une lecture de compte pour se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes, dans l'ambiance un peu veillée au coin du feu en quelque sorte. Bon, on ne fera pas de feu, mais par contre, il y a des contes d'ici ou d'ailleurs qui prennent comme point de départ les œuvres de la collection et qui permettent de voir le musée un peu autrement. À hauteur d'enfant, mais voilà, évidemment, on ne repousse pas les plus grands non plus.
Alors, comment définiriez-vous l'expérience que vous souhaitez offrir aux visiteurs dans ce musée des Beaux-Arts de Gaillac ?
Moi, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'art, c'est quelque chose qui parle ou qui devrait parler à tout le monde. Et je suis persuadée que même si on a une vision souvent un peu élitiste des Beaux-Arts en particulier, le 19e siècle, le 20e siècle, j'ai utilisé des mots en plus qui font un peu peur, l'impressionnisme, etc., ou l'orientalisme, mais en fait, au-delà des courants et de l'histoire officielle, ça n'a pas tant d'importance. Je vous dis ça, c'est un peu sacrilège en tant qu'historienne de l'art, mais ça n'a pas tant d'importance. Moi, je pense que voilà, l'intérêt, c'est vraiment de venir découvrir, de venir voir quelles émotions provoquent en vous ces œuvres, la manière dont le paysage est représenté, le regard d'un personnage dans un portrait, essayer de retrouver est-ce que l'artiste a été fidèle au modèle, pourquoi le Tarn est rose sur un tableau, ce genre de questions. C'est des choses qui peuvent parler à tous, et je pense que l'intérêt de notre collection, c'est aussi de refaire découvrir des artistes qui ont disparu de la mémoire collective et qui offrent peut-être aussi une autre vision, parce que souvent quand on regarde un tableau de grands maîtres, c'est très impressionnant et c'est pas des grands maîtres pour rien, mais on retient presque plus le nom que ce qu'on a en face des yeux. Et ici, je trouve que les œuvres d'art, quelque part, peuvent aussi s'exprimer par elles-mêmes. Donc j'invite voilà, vraiment tout le monde à venir prendre le temps aussi de la contemplation et d'apprécier pour ce qu'elles sont ces œuvres au Musée des Beaux-Arts.
Avec les noms d'artistes que vous avez encore en tête, nous en citez plusieurs comme ça qui sont dans ce musée, parce qu'il y a peut-être leurs descendants qui nous écoutent là.
Oui, il y a des descendants, et on le sait avec les familles qui parfois nous contactent. Mais je pense par exemple à la famille Tournon, donc Raymond Tournon, père et fils, qui sont représentés dans la collection. Parmi ceux que je n'ai pas encore cités, on a Pauline Adour. Alors là, s'il y a des descendants de Pauline Adour, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on ne connaît rien de cet artiste, on n'a même pas les dates de naissance ou de mort. Et pourtant, on a trois tableaux absolument formidables de cette peintre, qui est une peintre symboliste, donc qui représente des femmes... Dans la nature, on dirait que ça vient pareil d'un conte ou d'une poésie absolument incroyable. On a aussi le couple Artigue qui est représenté, Bernard-Joseph Artigue et sa femme Julie. Donc Bernard-Joseph Artigue qui est assez connu comme peintre et comme pastelliste dans la région. Il y en a notamment au musée Toulouse-Lautrec à Albi, qui est un peintre qui était installé à Blaye et qui a beaucoup représenté la campagne. Et on a la chance d'avoir un ensemble de mobilier qu'il a réalisé avec sa femme. Mobilier en cuir, absolument incroyable, dans la veine Art Nouveau. Donc si vous aimez les courbes, les motifs inspirés de la nature, ça vous plaira certainement. Et donc on sait que Bernard-Joseph Artigue a réalisé les dessins, et c'est sa femme qui les a transposés sur cuir.
Eh bien voilà, beaucoup de choses hein, qu'on peut voir dans ce musée de manière permanente et temporairement. Il y a des choses aussi qui se passent régulièrement dans ce musée. Vous nous disiez déjà que vous aviez l'œil sur 2026. On peut avoir quelques idées comme ça de ce qui va se passer ici en 2026 au musée des Beaux-Arts de Gaillac ?
Alors, dans le détail, peut-être pas encore, mais je peux déjà vous donner une première couleur et coloration sur la saison 2026 qui va s'ouvrir. Vous l'avez rappelé, donc on va fermer l'exposition Nature fabuleuse, carte blanche à Violaine Lavaux le 30 novembre. Et en fait, on rouvrira une exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts en avril 2026, tout début avril a priori, sur une thématique qui, je l'espère, est chère aux Gaillacois, en tout cas qui va parler de Gaillac et qui va parler à la fois de la création actuelle et des collections. Donc voilà, je n'en dis pas plus. J'attire l'attention aussi des éditeurs sur le fait qu'on aura, à partir de janvier, une brochure qui est éditée par les services de la ville, où on retrouve tous les spectacles proposés par la ville et toutes les activités des musées et du label Ville d'Art et d'Histoire, donc les balades notamment en ville, mais pas que, voilà, qui sort à partir de janvier. Donc c'est une brochure a priori jaune-bleu-verte, donc voilà, guettez-la, et vous aurez tous les renseignements et toutes les infos, y compris celles que je ne peux pas encore donner.
Et sinon, les infos pratiques pour avoir accès à ce musée des Beaux-Arts de Gaillac, ouvert à l'année déjà?
Ouvert à l'année, pas exactement. Mmh. En fait, on va fermer juste après la lecture comptée, donc le week-end qui est directement avant Noël. Et on rouvrira le vendredi 6 février. C'est valable pour les trois musées de la ville, d'ailleurs. Donc voilà, là, c'est la fermeture annuelle pour des raisons principalement de gestion de planning, hein, de personnel. Et puis, par ailleurs, on sait qu'on a moins de demandes sur cette période-ci. Donc, on reste ouvert en cas de besoin, notamment, je pense, aux enseignants pour les scolaires, de façon exceptionnelle. Mais par contre, les musées rouvrent à partir du 6 février. À partir du 6 février, on sera donc ouvert vendredi, samedi, dimanche, et à partir de début avril, tous les jours, sauf le mardi.
Visite payante, gratuite, ça se passe comment ?
La visite est payante de 2 euros, mais en réalité c'est 4 euros en tarif plein, 2 euros pour les tarifs réduits, donc 12-18 ans, demandeurs...
minima sociaux,
voilà, minima sociaux, selon les profils. Avec la carte de personnes handicapées, etc. La gratuité pour les moins de 12 ans. Et puis vous avez la gratuité, pour le coup, pour tous, le deuxième dimanche du mois, ne pas l'oublier.
Gaillac.fr, hein, sur le site de la ville, hein, pour avoir les informations sur ce musée des Beaux-Arts. Merci beaucoup Adèle Macias, la directrice, pour cette visite guidée, hein, radiophonique de ce musée des Beaux-Arts de Gaillac. Je rappelle que le musée est installé dans le superbe château de Foucault, en plein cœur de Gaillac, avec une riche programmation pour tous les publics. Si vous souhaitez découvrir les collections, les ateliers ou encore l'exposition Nature Fabuleuse, eh bien, grouillez-vous parce que c'est jusqu'au 30 novembre. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci beaucoup.